Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'une femme à qui on dit après un accident de moto « Vous ne pourrez plus jamais remarcher. Vous êtes condamné au fauteuil roulant. » Mais le mot « jamais » ne fait pas partie de son logiciel. Alors 3 mois et demi après, elle marche. 11 mois après, elle remonte sur des skis. Et un peu plus d'un mois plus tard, sur un vélo. Et surtout, 3 ans et demi plus tard, elle gravit le Mont Blanc. Elle s'appelle Sylvie Samicia. J'ai tiré son histoire de son livre qui paraît aux éditions Guérin, L'impatiente. Sous-titre, Ma troisième vie commence au Mont Blanc. J'en ai tiré un récit très revigorant que j'ai écrit avec Tugdual de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je suis né en Alsace, à Flaxlanden, au sud de Mulhouse. Une maison avec un très grand jardin, des potagers, un verger. Avec ma sœur, je passais mon temps à jouer dans les arbres. Et avec les voisins, on faisait du vélo, du patin à roulettes. Et à l'adolescence, je partais des journées entières à bicyclette. Bref, j'ai toujours eu besoin de me défouler. Je ne tenais pas en place. Et ma mère me disait « Enfin Sylvie, essaye de pas remuer pendant une minute. » Je n'ai jamais réussi. Et puis j'ai fait de la musique aussi, de la clarinette. Je voulais en faire mon métier. Et à l'école de musique, je jouais dans l'orchestre d'harmonie. J'avais 13 ans. Et je plaisais beaucoup au directeur. Et moi, je l'aimais bien. Il me donnait toujours des partitions intéressantes. Je ne voulais pas le décevoir. Et si j'ai eu mon diplôme de fin d'études de clarinette au conservatoire de Strasbourg, c'est grâce à lui. Seulement, il avait une façon bien à lui d'aimer les jeunes filles. Et un jour, j'avais 13 ans, il s'est occupé de mon initiation sexuelle. Le salaud ! J'ai rien dit. J'ai pris sur moi, je me suis dit que c'était ma faute. Et puis, je voulais vivre heureuse. Je voulais croquer la vie, je voulais garder mon sourire, mon optimisme. Il m'a fallu 17 années de plus pour dire ce qui s'était passé à mon mari. Après le bac, j'ai tenté une fac d'histoire. Mais c'était trop immobile, ça n'était pas fait pour moi. Alors je me suis inscrit dans une fac de sport, mais c'était trop intellectuel pour le coup, et pas assez sportif. Et là, j'ai quitté l'Alsace sur un coup de tête. Et je suis allé m'installer dans les montagnes, parce que mes parents m'y avaient amené en vacances. Un coup de foudre. Et cette année-là, j'ai gravi le Mont Blanc avec mon père. Et la montagne est devenue une nouvelle passion, encore plus forte que la musique. J'aime grimper. J'aime entendre le crissement des crampons tôt le matin dans la neige. J'aime me faire prendre dans la tempête. J'aime éviter les chutes de pierre. J'aime arriver coûte que coûte au sommet. Et là-haut, j'aime sentir le vent léger. Je me suis toujours dit que s'il devait m'arriver un accident, ce serait en montagne. Les années passent. Je me marie avec Eric, on a des enfants. Robin qui a aujourd'hui 17 ans et Camille qui en a 11. Et un matin de mars 2015, Eric et moi partons skier. Enfin, c'est ce qu'on croit. On arrive au téléphérique, la cohue. Au moins 1 heure d'attente. Et si on partait en moto plutôt? Il fait beau, les routes sont sèches, ça te dit? Si j'étais allé skier, aurais-je eu aussi un accident? Ça fait 6 ans que je partage ces sorties moto avec Eric, mon mari. Et aujourd'hui, c'est une belle journée de printemps. Et je sens ma belle 900 Ducati siffler légèrement dans mon casque. Après cet hiver passé sur des skis, quel plaisir de retrouver les sensations de la moto. Moi, j'aime bien l'engagement. Pas le droit de tomber, pas le droit à l'erreur, toujours rester concentré. C'est grisant. Et ce matin-là, on plonge tous les deux vers la vallée de l'Arve, par la route étroite et sinueuse du village des carrosses d'arrache. Et devant nous, il y a une file de voitures à touche-touche. Elles sont ralenties par un convoi exceptionnel. Eric est devant, il double sans problème. Je m'engage à mon tour. Mais pourquoi ? Pourquoi ma main s'est-elle crispée sur le frein ? Pourquoi ma moto est-elle partie en vrille ? J'ai juste eu le temps de crier « Ouh !» et j'ai glissé vers les roues du camion et là, une grande lumière blanche, d'un blanc éclatant. Un blanc qui n'existe nulle part sur Terre, qui me happe, qui m'aspire hors de mon corps. Ma première vie s'arrête là, à cet instant. Sylvie, reviens. Reviens Sylvie, on a besoin de toi. Les enfants aussi, je t'en supplie. Sylvie, reviens. Mais moi, à ce moment-là, je suis bien, je suis zen. Donc c'est si doux, la mort. Mais Eric continue de m'appeler, et d'un coup, je décide de retourner dans mon corps, c'est-à-dire encastré entre les roues et la carlingue du camion. J'ouvre les yeux, 5 jours plus tard, à l'hôpital.
Bonjour. C'est normal que vous puissiez pas me parler, hein? Vous avez des appareils dans votre bouche pour vous faire respirer. Je suis content de vous voir avec les yeux ouverts, hein? Vous avez vraiment de la chance d'être encore là. Vous avez perdu beaucoup de sang. Il a fallu vous transfuser. Et il a fallu vous amputer du bras droit, au-dessus du coude. Et par ailleurs, la moelle épinière est touchée. Elle est sectionnée par endroits et...
Oh, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne vais plus pouvoir marcher. Alors j'essaye de bouger les doigts de pied, rien ne répond.
Mais non ! Non, je ne suis pas d'accord. C'est l'extrémité de la moelle épinière qui est touchée, vous savez. Et avec de la chance et beaucoup de volonté, dans quelques années, vous pourrez peut-être vous mettre debout, hein, et faire quelques pas pour aller du fauteuil jusqu'au lit.
Du fauteuil jusqu'au lit ? Cause toujours. Moi, j'irai au Mont Blanc. J'irai, comme je l'avais prévu, sur le Mont Blanc avec mon fils Robin. Enfin, tout ne va pas s'arrêter dans cette chambre d'hôpital. Ils ont dit à Eric qu'ils ne savaient pas si j'allais vivre, qu'il y avait un risque d'infection, que si tout se passait bien, ils allaient me garder 6 mois, que j'en avais pour 2 ans de rééducation, que je serais dans un fauteuil roulant. Et moi, à cet instant, dans ce corps qui ne peut pas bouger et qui me fait si mal, je décide que tous mes projets, tous mes rêves les plus fous se réaliseront. Le 28 mars 2015, 15 jours après l'accident. C'est un grand jour, parce que ce matin, à force de concentration, à force de volonté, de conviction, mes doigts de pied ont bougé. Et je le dis à l'infirmière.
« Oh mais non madame, vous vous faites une idée, hein ?»
Elle ne va même pas vérifier sous les draps. Et quand Eric et les enfants arrivent,
« Regardez, je peux bouger les doigts de pied. Et du coup je vais marcher. » Je vais pouvoir retourner au Mont Blanc.
Je n'imagine pas une seconde passer ma vie dans un fauteuil roulant. Deux jours plus tard, c'est mon anniversaire, 44 ans. Avant, pour mon anniversaire, en général, je faisais une rando à ski et je rentrais le soir à la maison le visage cramoisi pour souffler les bougies du gâteau.
Joyeux.
À quoi bon pleurer sur tout ça ? Pour me démotiver ? Pour souffrir encore plus ? Alors je fais bouger mes doigts de pied. Et ça bouge. Et je retrouve le moral. Vers 19h, Eric, Robin et Camille arrivent à grand bruit. Je les entends dans le couloir.
Monsieur !
Monsieur, ici, c'est un hôpital, hein. C'est pas une piste de ski. Les pistes de ski, c'est là-haut.
Et je comprends. Je comprends quand je les vois débarquer dans ma chambre avec mon cadeau. Une belle paire de skis toute neuve, avec un ruban. Et je suis si contente, si émue. C'est dingue d'avoir osé un tel cadeau. Ils veulent croire que je dis vrai. Et moi aussi, j'y crois. Tous les matins, on me réveille vers 6h30.
Bonjour.
Tension, médicaments. Et puis, le radiologue vient tous les matins pour une douloureuse radio des poumons. Ils sont perforés. Il faut savoir s'ils se recollent, s'ils ne s'infectent pas. S'ils s'infectent, je suis morte. Puis arrive l'aide-soignante pour la toilette, aux gants de toilette. Et vers 10h, l'infirmière pour refaire mes pansements. Et quand elle ouvre celui du moignon, j'ose pas regarder. J'ai peur de voir l'os et de voir la chair sanguinolente dessus. Et puis, il y a le pansement dans le dos, 50 cm. Et puis, celui du genou droit qui a brûlé. Et ensuite, arrive le kiné et sa stagiaire qui font bouger mes jambes.
Bon, maintenant on va faire de la kiné respiratoire. Allez-y, inspirez. Expirez profondément. Retenez votre respiration. Très bien, on reprend.
...7 avril... moins d'un mois après l'accident.
Bon, vous allez pouvoir quitter l'hôpital, hein. Vos poumons ne saignent plus et... donc vous allez pouvoir aller dans un centre de rééducation, hein. On va enlever vos draps et vous retirer aussi la trentaine d'agrafes que vous avez dans le dos. Ok ?
Trois jours plus tard, on me transfère en ambulance au centre de rééducation de Sancelmoz, un ancien sanatorium à 1000 mètres d'altitude.
Voilà votre chambre. C'est la 119.
Elle ne ressemble pas du tout à une chambre d'hôpital. Elle est vieillotte, la tapisserie est délavée, il manque des morceaux, et la fenêtre ne ferme pas correctement. Peu importe. Je suis là pour progresser.
Vous voulez la télévision ?
Non. Si j'en ai une, je vais la regarder, je me connais. Et je passerai moins de temps à travailler ma rééducation. ...12 mai, 2 mois après l'accident. J'ai rendez-vous avec Marie-Neige, l'assistante sociale.
Alors, il va falloir que vous fassiez un dossier, hein, pour faire reconnaître vos handicaps et puis obtenir en conséquence les aides financières, techniques, humaines, tout ça, quoi. Et donc, il faudrait que vous écriviez une lettre, hein, dans laquelle vous racontez votre vie d'avant et en quelque sorte l'avenir que vous vous imaginez aujourd'hui. Et pour ça, il faudrait pas trop traîner, hein, parce que après, il y a énormément d'attentes. D'accord ?
Je rentre dans ma chambre, je prends ma tablette, j'écris mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, et puis la date et madame, monsieur. Et là, je réfléchis à ma vie d'avant. Je la connais par cœur, hein, c'est ma vie. Rien ne sort, rien. J'essaye de me concentrer, je n'arrive pas à écrire une phrase. Et pareil pour l'avenir. Je sais que je vais remarcher, je sais que je vais skier, je sais que je vais gravir le Mont Blanc, mais je n'arrive pas à l'écrire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je réessaye le lendemain et une semaine plus tard, et cette fichue lettre n'est toujours pas écrite. Et donc je dois demander à Eric de l'écrire à ma place. Pourquoi mon cerveau tourne-t-il au ralenti ? Je trouve la réponse le soir quand Lucie, l'infirmière, m'apporte mes médicaments.
Ça va ? Vous pouvez les prendre toutes seules ? Oui, pas de problème.
Je les aligne sur mon plateau.
Il y en a 23 à avaler matin, midi et soir. 69 par jour. Pourquoi ? Alors j'avale les 23 sagement l'un après l'autre. Et quand l'aide-soignante vient récupérer le plateau repas,
dites, vous savez pourquoi j'ai autant de médicaments ?
Oh ben moi j'en sais rien. C'est pas mon domaine.
Mais je vais en parler au docteur.
Le docteur vient le lendemain à 7h.
Bon, alors celui-là, c'est un antidépresseur. Celui-là, c'est un somnifère. Le petit blanc, là, c'est un fluidifiant sanguin. Les rouges et les verts, c'est des antidouleurs. Le sachet, là, c'est pour le transit intestinal. Et le orange, eh bien, c'est pour mieux supporter tous les autres médicaments.
Dites, docteur, j'ai un problème pour me concentrer. On pourrait pas baisser un peu les doses ?
Ah non, non. Non, vu votre état, je veux pas prendre de risques, hein.
Eh bien, je le ferai toute seule. Je n'ai pas besoin d'antidépresseurs, ni de somnifères. Et pour le reste, je vais diminuer les doses. Au lieu de 4 pilules blanches et rouges, je vais en prendre 3, et la semaine prochaine, 2. Et là où il n'y en a qu'une, eh bien j'arrête tout de suite. Alors bien sûr, au bout d'une semaine, les douleurs sont plus vives, mais tant pis. J'arrive mieux à réfléchir.
Le 29 mai, 2 mois et demi après l'accident. Ça fait 10 jours que j'essaye de me mettre debout dans la petite salle de kiné. En m'accrochant à l'espalier, les kinés m'aident juste à me lever. Et depuis 8 jours, j'arrive à rester debout. Et maintenant, je tiens presque 5 minutes. Et aujourd'hui, petite victoire, je suis arrivé à me lever toute seule. Mon prochain but, c'est de marcher. On est vendredi. Vendredi prochain, je fais mes premiers pas. C'est juré. Le vendredi suivant, ils sont tous là qui m'attendent de pied ferme. Même si mon ergothérapeute n'y croit pas.
Sylvie, médicalement parlant, c'est impossible. Hein ?
Allez, maintenant je dois me lancer.
Allez Sylvie, tu peux le faire.
J'avance le pied droit.
Allez, allez, tu peux le faire.
Et là, j'avance le gauche et puis le droit.
J'ai réussi. J'ai fait 3 pas.
Oh, je suis si heureuse.
J'ai envie de pleurer de joie. Et demain, j'en ferai 12, et 24, et ainsi de suite. Rien ne pourra plus m'arrêter.
15 juin. 3 mois après l'accident, à force d'éliminer un médicament par semaine, je n'en prends plus qu'un. Obligatoire pour fluidifier le sang et éviter les phlébites. Et les autres ? Les autres, je les jette discrètement. Je vais bien. J'ai la pêche. J'ai retrouvé mon cerveau. Et le médecin qui me dit
« Bon, on va pouvoir diminuer les doses progressivement. Et d'ici 2 à 3 mois, il ne vous restera que les antidouleurs et les neuropathiques hein, qu'il faudra sans doute que vous gardiez à vie.
» 26 juin. Depuis que je m'entraîne à marcher avec des béquilles, j'ai fait des progrès. Même si ça ne va jamais assez vite à mon goût. Hein. Je ne peux pas encore aller dehors. Les graviers me font perdre l'équilibre. J'ai décidé néanmoins de rendre mon fauteuil électrique. Je veux tout faire à pied pour progresser.
11 juillet. Maintenant, sur un terrain plat, avec ma béquille, je vadrouille 500 mètres. Et j'arrive à monter et à descendre les escaliers. J'ai droit à un week-end à la maison.
Le 27 juillet. Ça y est, je rentre à la maison. Je reviendrai au centre tous les jours, de 9h à 17h. Dire qu'il y a 4 mois et demi, je me réveillais immobile et transpercé par la douleur. Face à un médecin qui m'annonçait que je ne remarcherai plus jamais. Mais pour moi, le plus important reste à venir. 3 février 2016, 10 mois et demi après l'accident. Ça fait des semaines que je vois Eric, Robin et Camille partir skier. On habite au pied des pistes et moi, ça me démange. Et une fois de plus, les kinés et les médecins m'ont dit
« Skier ? Oh mais c'est impossible !»
Mais moi j'y crois. Et Eric aussi. Il fait beau, on y va. Mettre mes chaussures de ski est une première épreuve. Mes doigts de pied se recroquevillent. Et j'ai pas assez de force pour rentrer dans la chaussure. Il me faut une demi-heure. Mais ça y est. Et maintenant, je dois trouver mon équilibre. Eric me tient, je fais 50 mètres, et là, il me fait chausser des skis. Oh là là ! Ça tangue ! Je fais des petits pas, j'essaye de retrouver des sensations. Bref, je me donne un cours de ski spécial débutant handicapé. Je prends le tapis roulant qui mène en haut de la toute petite piste des enfants. Et je descends doucement, en chasse-neige. Et je le fais une fois, deux fois, 10 fois. Je suis fatigué. Mais la prochaine fois, je prendrai le télésiège. Une autre idée me trotte dans la tête. Refaire du vélo. Mais avant, ça passe par de la kiné pour débloquer mon genou. Les kinés ont beau pousser pour qu'ils fléchissent, ça ne progresse pas.
Bon, ce que je te propose, Sylvie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du gaz hilarant. Qui te permettra de moins sentir la douleur. Et donc, on va pouvoir pousser la flexion du genou en cassant les adhérences. On y va ? Alors, tu respires lentement et calmement dans le masque à gaz. Vas-y.
La première fois, je respire trop fort et je ne fais plus que rigoler. Et la deuxième fois, je m'applique. Et on fait ça pendant un mois. Et après, je dois tout réapprendre, comme un enfant. Je commence par des allers-retours sur le seul bout de route plate près de chez moi. Mais je tiens mon guidon que d'une seule main. Il me faudrait une prothèse.
Une prothèse ? Ah mais ça, c'est pas possible. Hein. On n'a pas ça en catalogue.
Pas possible. Eric, un de mes copains mécanos et mon ergothérapeute, m'en fabrique une. Et comme ça, je peux aller de plus en plus loin. Là où le vent de liberté souffle dans mes oreilles. Février 2018, un peu moins de 3 ans après mon accident. C'est un hiver magnifique, il y a beaucoup de neige. Et aujourd'hui avec Eric, on prend le téléphérique de l'Aiguille du Midi pour aller faire la Vallée Blanche, un itinéraire de ski hors piste de 20 km dans le massif du Mont Blanc. On s'arrête pour manger au refuge du requin. Et là arrive un guide que je connais, Doumé. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu.
Je savais pas que t'avais perdu un bras, Sylvie. Tu sais que je travaille qu'avec des clients handicapés maintenant ?
Ah bon ? Dis-moi, Doumé, est-ce que tu accepterais de m'emmener au Mont-Blanc ? Cet été, disons, en juin ?
Le projet me semble fou, mais pourquoi pas ? Je veux bien essayer.
L'objectif Mont-Blanc cesse d'être un rêve lointain. « 17 juin 2018, 3 ans et 3 mois après mon accident. C'est le jour J. Je pars pour cette aventure avec Eric, avec Robin, mon fils, avec Fred, ma kiné, Philippe, mon ergothérapeute, et l'indispensable Doumé. Mais à 4400 mètres d'altitude, on doit faire demi-tour à cause du mauvais temps. » Un mois plus tard, le 17 juillet, c'est reparti. Avec Doumé, bien sûr, Eric, Robin et mon neveu Fabien. À 1h30 du matin, nous quittons le refuge des Cosmiques pour attaquer à la lumière des lampes frontales la montée très raide du Mont Blanc du Tacul. Je me concentre sur les chaussures oranges de Doumé. Heureusement qu'il y a la corde. Plus haut, une échelle a été installée pour passer la crevasse. Et je monte. Je monte bien même. Je suis étonné. Après une pause à 4400 mètres au col de Branvin, nous attaquons les 400 derniers mètres. Je suis dans un état de fatigue avancée. Chaque pas est une épreuve. L'altitude pèse. Mais j'ai une énergie folle. Rien ne peut plus m'arrêter. À midi, nous arrivons tous les cinq au sommet. Et l'émotion est indescriptible. On se prend dans les bras, on se serre fort et on pleure de joie. C'est un combat de 3 ans et 4 mois qui s'achève, qui a permis d'aller au-delà de tous les pronostics, de réussir l'impossible en y croyant si fort que l'impossible est devenu possible.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.